maintenant, c'est permis de mettre une gifle.
Ouverture. Je regarde s'ils sont présents, mais je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Ils sont observés en permanence. Les surveillants participent à l'observation. Vous allez rencontrer des psychiatres.
Bon, messieurs, distribution des couteaux.
Le rôle de l'administration pénitentiaire s'est écrasé. Humilié. Déshumanisé. 200 000 francs la télé.
Bonjour, voilà, bienvenue dans l'émission Papillon. Donc aujourd'hui, maintenant, dimanche 17h30, c'est Papillon, on est le 4 janvier. L'émission sera rediffusée sur Radio Dio, donc toujours 89.5 FM, et aussi sur internet www.radiodio.org le jeudi 22 janvier à midi, puis à 17h. Et l'émission est aussi rediffusée en région lyonnaise sur Radio Canu 102.2 FM. Voilà, et ça, ce sera le mardi 20 janvier à 20h. Voilà. Et vite fait, Papillon est une émission qui parle des prisons, dont le but est de laisser avant tout la parole aux prisonniers, à leurs proches, d'accueillir des témoignages et des opinions, etc. De donner aussi, nous, notre opinion. Et aujourd'hui, nous avons une invitée qui est venue exprès de Paris pour nous. Je vais te laisser te présenter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici à Saint-Étienne, malgré le froid. J'espère que cette émission sera agréable à écouter. Je m'appelle Catherine Charles. J'ai deux fils en prison, un depuis 13 ans et l'autre depuis 8 ans et demi, dans le cadre d'une tentative d'évasion en hélicoptère en 2001 au-dessus des prisons de Fresnes. Je suis par ailleurs la présidente de l'ARPI, Association pour le respect des proches de personnes incarcérées. Et j'ai été invitée par l'équipe lorsqu'on s'est rencontrés à Givor, où j'étais allée dans le cadre d'une marche pour Fakhreddine, qui est mort cet été à la prison de Lyon.
Saint-Quentin-Fallavier,
voilà, pour être précise. Et j'ai dit oui, que je serai là, donc voilà, je suis là. Et depuis toutes ces années, je me bats, je résiste plutôt, parce que je ne me définis pas comme une militante, mais comme une résistante. Et je fais avec mes moyens ce que je peux pour contrer l'hydre pénitentiaire.
Après cette petite présentation, on va peut-être passer au bref.
Ouais. Donc je suis censé vous parler des images de Fleury-Mérogis. Donc ça a apparu sur le net il y a à peu près un mois. Et on nous présentait ça comme si ça allait vraiment tout chambouler. Ou ça allait mettre un peu mal l'administration pénitentiaire, tout ça. Donc c'est des détenus qui ont filmé à l'intérieur. Avec des portables ou peut-être une vidéo, quoi. Et donc, bon, il faut déjà savoir qu'il y a plein de détenus, pas mal de détenus qui ont des portables, tout ça, qui peuvent toujours filmer ou témoigner derrière. Et en fait, c'est un peu du neuf avec du vieux, parce qu'il y a toujours eu, il y a déjà eu, on nous a souvent montré des reportages, des documentaires, mais ça vaut pas grand-chose, d'envoyer spécial, des émissions un peu, j'aime pas trop citer, mais bon. On nous montrait déjà des vidéos, des cours de promenade, des détenus, ou même des détenus à l'intérieur de leurs cellules, tout ça. Et c'est pas forcément le fait de montrer la prison qui va nous faire prendre conscience de tout ce qui peut se passer à l'intérieur, comment c'est vécu par les prisonniers, tout ça. Donc on nous parle de l'insalubrité à l'intérieur, donc c'est vrai qu'on nous montre des douches qui sont dégueulasses, avec des plein de détritus à l'intérieur. Et même ça, c'est toujours des trucs qui peuvent être récupérés, on va dire, où l'administration pénitentiaire pourra se dédouaner en disant que oui, mais c'est les détenus eux-mêmes qui jettent leur saloperie dans les douches, c'est eux qui sont sales, tout ça. Et donc on nous montre aussi la condition physique. Alors on nous montre des détenus qui sont en train de faire des pompes dans la prison en nous disant que c'est pour garder la condition physique et c'est aussi pour se protéger des agressions d'autres détenus, quoi. Donc toujours cette espèce de truc rabâché, de la violence entre détenus, comme quoi bah, c'est tous des voyous, donc c'est normal, ils se tapent sur la gueule, voilà. Donc ça entretient ce cliché de gens dangereux à l'intérieur de la prison, alors qu'on ne nous rappelle jamais que c'est justement, ce qui serait important de dire, c'est que c'est la prison elle-même, le huis clos de la prison, qui crée des tensions et qui crée des violences à l'intérieur, quoi. Et encore une fois, on ne va pas non plus nous parler des violences des matons, par exemple, ça serait, on rabâche toujours un peu le même truc, mais en même temps, on n'en parle jamais, quoi. Et même quand on veut nous parler de la prison, on ne nous parle pas de ça, de cette violence qu'il peut y avoir des matons sur les prisonniers, toutes les humiliations qu'il peut y avoir. Et ça pourrait être, le jour où on nous montrera ça, là, on pourra dire, oui, c'est important, que là, il y aura peut-être un changement, mais de voir les images de Fleury-Mérogis, je les ai regardées plusieurs fois, et franchement, je ne vois pas grand-chose qui pourrait changer ce qu'on a vu déjà, quoi. Il y a aussi...
Et puis ça trompe les gens.
Ouais.
Bah bien sûr, ça trompe les gens. C'est-à-dire que quand des personnes, le cœur sur la main sur le cœur, c'est plus pratique peut-être, et vont regarder ces images, elles vont se dire quand même, on pourrait leur repeindre, on pourrait faire un effort, mais elles vont penser à repeindre l'enfer au lieu de le déconstruire. Mmh. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mmh. Et ça nourrit une logique. Ça vient, ces images viennent de ce que tu disais, elles viennent renforcer une logique de concept de dangerosité. Et puis faire des pompes pendant 20, 30 ans, ça n'a jamais fait du bien à qui que ce soit.
Ouais. Et puis on peut comprendre ça aussi, c'est-à-dire quand on est enfermé environ 22 heures par jour, 22h30, on peut comprendre qu'on a intérêt, si on veut conserver un peu le moral, d'avoir une activité assez physique le temps de la promenade, quoi. C'est une heure et demie de promenade, donc on a intérêt, qu'on soit bagarreur ou pas, on a intérêt de se bouger pendant la promenade, quoi.
Puis il y a le truc aussi, se réapproprier son corps aussi,
s'oxygéner, tout,
voilà, aussi, ouais. Ouais. Puis bon, des pompes, il y en a plein qui en font, pas en prison aussi, hein. Moi j'en fais par exemple tous les jours. Donc voilà, et puis il y a le discours aussi du type à la fin.
Ouais, donc je voulais justement le citer, ouais, tu fais bien d'en parler. Donc à un moment donné, on a aussi les paroles des détenus à l'intérieur. On nous montre un moment que, bon, des détenus qui nous disent « Ouais, c'est la galère, c'est la merde », donc ça c'est clair, on dit souvent aussi, c'est clair que c'est, voilà, c'est la merde, on le sait, mais c'est pas très parlant dans une vidéo qui est censée changer les choses, quoi. Et donc il y a une personne aussi, un détenu, qui nous parle de la réinsertion sociale, et qui nous dit, donc je vais le citer, hein, qui dit donc « Je lance un appel à tous pour qu'on change tout ça et de ne pas croire qu'ici c'est un lieu pour où on peut se réinsérer. Parce qu'il y a des mélanges de certaines personnes qui ne vont pas avec d'autres. Moi, par exemple, je serre la main en promenade à un mec cet après-midi qui a fait un attentat. Je ne dis pas que moi je vais rentrer dedans, mais j'en connais plusieurs. » Donc quand il dit « je vais rentrer dedans », c'est-à-dire qu'il ne va pas se laisser influencer par le mec qui a fait un attentat et lui-même aussi tomber dans cette logique-là de faire des attentats. Et rien que ça, de dire ça... C'est encore, je trouve ça super con de dire ça, je suis désolé pour le mec qui l'a dit, mais je trouve ça super grave de dire, ouais, moi je peux pas me réinsérer parce qu'à côté de moi j'ai un mec qui a essayé de faire un attentat ou qui a braqué, tout ça. Je vois pas où est le frein dans la réinsertion ou dans le fait de traîner avec des gens qui ont commis certains délits, tout ça, quoi. Donc voilà, c'était pour parler de ça.
Il faut se demander à qui profite le crime, quoi. À qui profite ce type de vidéo. Quel est l'intérêt, si ce n'est diaboliser encore plus le monde carcéral et angéliser, je ne sais pas si ça existe, mais là, on aura inventé le courage des personnels pénitentiaires qui, devant autant d'abnégation, mais quand on voit ce genre d'image avec ce genre de discours, on aurait pu mettre une caméra avec des gens qui ont tiens, par exemple, j'ai un copain qui a fait une thèse en psycho sur la norme et la déviance. Ils auraient pu filmer un type comme ça qui, si on lui avait posé une question à propos de la réinsertion, il t'aurait dit des choses intelligentes. Mais c'est pas l'intérêt. Donc cette vidéo, elle est là à dessein. Et qu'on vienne pas me sortir la théorie du complot. Dès que tu critiques aujourd'hui, t'es dans une théorie du complot. C'est une réalité. Les images et le divertissement et tout ça ne sont là que pour t'aspirer ta moelle.
Donc voilà, pour finir vite fait sur ça, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, il y avait 3 minutes qui circulaient sur le net, donc j'ai trouvé ça déjà assez un peu craignos, on va dire, limite. Et on verra bien ce que ça donne. Donc il y a 2 personnes qui sont censées prendre ces vidéos pour en faire un documentaire là-dessus. Donc on verra ce que ça donne, même si moi, perso, je me fais pas trop d'illusions, quoi. Voilà, j'ai terminé pour la brève.
Ah ben voilà, c'est à moi. Je voulais juste annoncer vite fait la sortie d'un livre qui a l'air très intéressant. Ça s'appelle « Feu au centre de rétention ». Et c'est un livre qui collecte des témoignages de gens qui ont été enfermés en centre de rétention à Vincennes, celui qui a cramé, et à Palaiseau aussi, je crois. Et voilà, c'est bien, c'est des témoignages des gens qui sont les premiers concernés et qui parlent. Et c'est sorti, ça coûte 7 euros, ce qui n'est plus très cher pour un livre, et pourtant c'est déjà cher. Et c'est sorti aux éditions Libertalia, donc soit vous les trouvez sur internet, et soit normalement, bientôt ils seront distribués à Saint-Étienne, pas forcément dans les librairies, mais dans des lieux amis, on va dire. Bon, on va faire un tout petit peu de pub sans le vouloir. Je crois qu'au bar Le Ramin Agrobis et au resto Loulou Cantine, il y en aura. Enfin, j'espère. Voilà.
Bon, bah là, on va enchaîner avec la question des prisons de Saint-Paul et Saint-Joseph, qui sont les prisons qui sont au cœur de Lyon, à Perrache. Parce que voilà, là, on nous annonce qu'il va y avoir la nouvelle construction de... Enfin, on arrive vers la fin de la construction de Corba, donc la super prison modèle avec 690 places. Et soi-disant que...
Combien de places, pardon ?
690, non. Là. Et que normalement, tous les détenus des prisons de Saint-Paul-Saint-Joseph seront transférés. Je dis bien normalement, parce que vu le rythme des incarcérations, on se demande si elle sera tant désengorgée que ça, quoi. Mais bon. Mais bref, la question n'est pas trop là. Là, c'est plus qu'en fait, les élus, tout ça, ils ont commencé à se poser des questions. Bah, qu'est-ce qu'on va faire de ces prisons une fois qu'elles seront vides, quoi. Et ça a été assez fou parce que donc, ça s'est battu sur plein de sujets. Donc, y en a qui disent oui, il faut conserver le patrimoine historique et architectural des lieux parce que quand même, ça serait le seul endroit en France où il y aurait les deux systèmes de construction carcérale qui ont été rapportés des États-Unis par Tocqueville qui seraient là en un seul et même lieu. Donc, on ne sait pas trop ce que c'est que ces exemples de construction carcérale, mais bon, tant pis. Et il y a le truc où ce quartier, c'est un quartier qui est en plein renouvellement urbain et quand même, il faut lui faire une petite image, quoi. Donc, ça fait un peu la verrue au milieu et surtout que ces deux prisons sont connues pour être pas des modèles de prisons modèles. C'est le cas de dire. Bref.
Ah non, pas du tout. Je suis allé au parloir voir mon fils pendant 6 mois à Lyon. C'est une horreur.
Ouais.
Une horreur.
Et donc, très vite, s'est posé la question de qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, il y a eu plusieurs idées qui ont été proposées, donc des idées de bureaux. Bon, ça apparemment, ça n'a pas été retenu. Il semblerait que la mairie aimerait y loger une partie du personnel de la municipalité dans un des endroits des bâtiments. Sinon, il y a eu aussi l'idée qui a été avancée de faire un hôtel. Donc, avec toujours l'idée que oui... la cellule, c'est proche de la chambre d'hôtel. Hein. De toute façon, il n'y aurait pas beaucoup de travaux à faire, ça se ressemblerait. Et tout en ayant en tête que dernièrement, il y a eu la prison de Sainte-Anne à Avignon qui, là, est en train d'être reconvertie en hôtel de luxe 4 étoiles. Donc, en prenant cet exemple, quoi. Et donc, il se pose ces questions. Et là, il y a une autre idée qui émerge, qui, moi, je trouvais la plus passionnante. Et c'est celle, dans l'article de journal, il parle d'une lueur d'espoir. Et donc, ça viendrait de l'université Lyon 2, qui est saturée sur les quais, donc juste en face. Et l'université dit qu'ils se tiennent prêts, parce que quand même, c'est vrai que c'est un arrêt de tram de chez nous, quoi. Et là-dedans, moi, ce que je trouvais assez fou et assez glauque, c'est de dire comment une prison, tout d'un coup, elle va redevenir un bâtiment plus ou moins normal, quoi. Et comment des étudiants, des trucs, vont être dans ces structures carcérales.
Bonjour les bonnes vibes.
C'est ça. Et il y a toujours le truc où quand on présente l'émission Papillon, on dit que voilà que les frontières entre l'intérieur et l'extérieur, elles sont de plus en plus floues, quoi. Et là, on a l'exemple parfait, quoi, de dire voilà, vu qu'on est habitué à vivre dans une grande prison bientôt à ciel ouvert, bah ça choque même plus, quoi. Et vraiment avec cette idée, rien ne se perd, tout se récupère et allons-y, quoi.
Bah, la preuve, c'est entre deux, hein, c'était une prison. Maintenant, c'est un centre commercial.
Voilà.
Oui, tout se banalise et tout se... Si on fait un hôtel, les gens viendront comme si... à moins que ce soit un hôtel de luxe, mais si l'idée de cette société de grande prison à ciel ouvert, c'est que maintenant, comme le divertissement est en train de prendre le dessus, c'est que ça se passera comme ça. Viens, chérie, tu veux aller à l'hôtel, tu veux te faire une frayeur, et ben on va aller à Prison Break. C'est aussi simple que ça. Et mettre des étudiants, oui, et puis les étudiants, s'ils acceptent, bah, ça te donne une idée de vers quoi on se dirige de plus en plus. Non seulement les limites, elles n'existent plus, il n'y a pas de frontière entre l'enfermement à l'intérieur et l'extérieur, et puis ça se mixe, comme ça on banalise. Et on intègre ça dans l'inconscient collectif, il intègre ça et il trouve ça normal après. Il n'est plus en mesure de s'insurger devant une situation dégueulasse. Ouais.
Et on reste dans la logique, l'école prison, l'usine prison, et voilà, c'est tout, c'est une suite quoi.
Ouais. Mais peut-être que si c'est un hôtel, les gens feront des cauchemars la nuit.
Je sais pas.
Bah écoute, faut avoir le cœur bien accroché quand tu sais. Enfin moi, quand je rentre dans une prison, notamment, ça me le fait énormément à Fresnes et Fleury. J'ai été comme hiver, des frissons partout. J'ai l'impression de sentir, d'entendre les cris, de l'histoire, mais sans détail. Je sais pas comment l'expliquer. J'ai une perception de la charge émotionnelle négative. Qui circulent dans ces endroits. Alors si des gens arrivent à dormir dans des endroits comme ça, si des étudiants arrivent à étudier dans des endroits comme ça, grand bien leur fasse. Hein.
Ouais. Bon, on va peut-être faire une petite pause musicale. Qu'est-ce qu'on va nous passer là ?
Eh bien, on va écouter Bobby Lapointe. Allez.
Il était une fois un tout petit bourreau, pas plus grand que trois noix et pas beaucoup plus gros. Des hautes et basses œuvres étaient exécuteurs, et pour les basses œuvres était à la hauteur. N'avait jamais de trêve et jamais de repos, car en place de grève il faisait son boulot. Pourtant couper des têtes, disait-il, ça m'embête, c'est un truc idiot, ça salit mon bio. Pour nourrir ma vieille mère, je saigne Paul ou Pierre d'un geste un peu brutal, mais sans penser à mal, sentimental bourreau. Aïe, 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 aïe. Un soir de sa fenêtre, la femme du fossoyeur, et là l'homme de tête, et lui ouvrit son cœur. Depuis longtemps sevré de transports amoureux, à vous veut me livrer, au bourreau vigoureux. Je vous lance une corde du haut de mon balcon, grimpez-y, c'est un ordre, allons, exécution. Pourtant couper des têtes, disait-il, ça m'embête, c'est un truc idiot, ça salit mon bio. Pour nourrir ma vieille mère, je saigne Paul ou Pierre d'un geste un peu brutal, mais sans penser à mal, sentimental bourreau. Aïe, 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 aïe. À partager sa couche, la belle l'invita, en quelques coups de hache, il la lui débita. L'époux au bruit du bris survint un peu inquiet. Il partagea le mari pour garder sa moitié. Comme la belle inquiète suggérait, taillons-nous. Il lui trancha la tête et se coupa le cou. Pourtant couper des têtes, disait-il, ça m'embête, c'est un truc idiot, ça salit mon bio. Pour nourrir ma vieille mère, je saigne Paul ou Pierre d'un geste un peu brutal, mais sans penser à mal, sentimental bourreau. Aïe, 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 aïe.
Vous êtes toujours à l'écoute de Papillon 89.5. Donc voilà, on va passer à une petite brève dont on a tous entendu parler, parce que c'est quand même pas mal passé dans les médias. C'est en fait sur la grâce nominative que notre cher président... a voulu faire, en fait, a voulu libérer 40 détenus, enfin a demandé au ministère de la Justice de faire une liste de 40 détenus réputés pour avoir une conduite exemplaire, c'est-à-dire des détenus, je cite, hors du commun, et d'élire ceux qui auraient fait preuve d'un courage ou d'une solidarité exemplaire et d'une exceptionnelle capacité de réinsertion. Et il se trouve, comme par hasard, que parmi ces 40, il y a un nom qui est sorti, qui est quand même pas mal sorti dans la presse, c'est le nom de Jean-Charles Marchiani, ancien préfet du Var, je crois, qui a été quand même, qui a pris 3 ans ferme pour abus de biens sociaux, pour corruption dans l'histoire des ventes d'armes en Angola, donc un truc quand même assez sympa.
Un truc de préfet, quoi.
Voilà, on va dire ça. Et du coup, voilà, bah c'est... Comment commenter ça à part dire que c'est du gros foutage de gueule et que c'est quand même assez hyper dégueu quand on voit, bon, je pense que Catherine nous en parlera, des libérations conditionnelles qu'on refuse à certaines personnes et que là on fait des grâces nominatives par des gens bah, qui sont dans les... dans les tréfonds du pouvoir, on va dire comme ça.
Et justement, t'as eu qu'un nom parce que je crois qu'il y a pas trop de noms qui sont sortis. On sait pas qui exactement a bénéficié des grâces, mis à part cette espèce de discours pompeux, dire oui, ils ont une conduite exemplaire, honorable et patati patata.
Non, ils sont motivés donc ces grâces par des actes de courage ou de bravoure dont les intéressés ont fait preuve pendant ou avant leur détention ou par des efforts exceptionnels de réinsertion. Alors bon, quand on est dans le quartier VIP de la santé, je pense que ouais, on n'a peut-être pas trop de mal à faire preuve de courage, quoi, on va dire. Ouais.
Ce qui serait intéressant, c'est que il y a des milliers de lettres qui arrivent au ministère de la Justice pour exiger les noms des 39 autres personnes vont être libérées. Alors c'est quoi avoir une conduite exemplaire avant d'avoir violé des enfants ou je sais pas, un peu importe le crime, faire preuve de réinsertion quand tu es dans des conditions effroyables, comment tu fais pour te réinsérer?
Et qu'on ne fait rien pour te réinsérer.
Voilà, c'est une liste de 40 personnes triées sur le volet et qui permettent, 39 ces 40 personnes permettent à Marchiani de sortir de prison. Mais ça, c'est pas exceptionnel. En 81, j'étais en prison. D'accord? J'étais enceinte. C'était impossible que je sorte pour accoucher. Et 81, c'est l'année où François Mitterrand est élu. Et je lis, moi, parce que je suis quelqu'un de curieux, je suis pas du tout... j'ai pas de vraie conscience politique, mais je lis partout. Et d'un seul coup, je tombe sur un article sur lequel je lis que la fille des voitures Opel, pour pas la nommer, donc une énorme fortune, qui était en prison au Bohémet, elle était dans les mêmes conditions que moi, et c'est pour ça qu'on lui donnait une... pas parce qu'elle était dans les mêmes conditions que moi, mais parce qu'elle avait un enfant à l'extérieur, où je crois qu'elle était enceinte, et ce qui lui permettait de sortir de prison. Il n'y a que moi pour avoir pris une lettre, un papier, avoir écrit une lettre à Daniel Mitterrand, et qui m'a répondu 2 mois après, une lettre très démagogique, mais j'avais noté qu'en bas, elle avait marqué qu'elle transmettait mon dossier au ministère de la Justice. Ça veut dire quoi? Que moi, j'ai quand même... Je suis sorti, hein, j'ai pas couché en prison. Mais ça veut dire que j'ai bénéficié d'une grâce parce que il pouvait pas nier, parce que je l'avais bien tourné ma lettre, j'avais demandé si je pouvais bénéficier de la même, du même contenu du texte qui avait prévalu pour Christina von Opel. D'accord. Donc pourquoi c'est intéressant d'avoir les noms? C'est-à-dire que tous les mecs qui vont être dans les mêmes paramètres que ceux qui vont être relâchés, ils pourront bénéficier ou d'une grâce ou d'une libération lambda. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Ouais, bien sûr. Mais en plus, ouais, l'argument en fait des grâces, c'est grâces individuelles en fait. L'année dernière, Sarko, il a quand même, il s'est proclamé contre les grâces collectives du 14 juillet justement. Et là justement, il disait, mais avec un discours toujours le même, qu'on va pas libérer quand même quelqu'un qui fait aucun effort sous prétexte que c'est une grâce collective, qu'il y a trop de monde en prison et tout ça, quoi. Et là, bon, comme par hasard, dans les grâces individuelles, il y a cette personne-là qui ressort, quoi. C'est vrai que ce serait bien de savoir le nom des autres, quoi.
Voilà, faudrait que tout le monde demande, en tant que citoyen, puisque c'est le mot à la mode, quel est le contenu de cette liste et les noms des personnes qui vont être libérées.
Et puis il y a aussi la pratique, le fait de faire ça pour Sarko, enfin même pour d'autres, hein. Je pense que c'est un moyen aussi de dire, regardez, on n'est pas des bourreaux, on est des gens qui en mesurent le pour et le contre, on est juste quand même quelque part, on offre des grâces à des gens. C'est aussi un moyen de dire, regardez, voilà, on n'est pas complètement...
tordu.
On n'est pas des bourreaux, quoi.
Oui, ils font d'une pierre deux coups. Mais à la base, quand des mesures sont mises en place, des mesures comme ça d'exception sont mises en place, c'est une volonté, c'est réfléchi pour faire sortir un Marchiani. Eh ben, ils sont obligés de se plier à une règle qui fait que voilà, il y a d'autres personnes qui doivent bénéficier.
Ça fera un peu tâche dans l'Ibérica, hein, donc on va dire dans l'Ibérica.
Mais c'est exactement l'histoire que je viens de raconter sur l'article. La loi, cette loi qui a été faite pour libérer une personne en 81. Voilà, c'est exactement le même procédé. Et qui c'est qui a écrit ? Il y en avait plein d'autres femmes enceintes.
Ouais, bien sûr.
Quand je leur disais, elles rigolaient. Oh, mais toi, l'intellectuel. L'intellectuel, elle est sortie. Et puis l'intellectuel qui a été jusqu'en 6e à l'école, ça va, quoi.
Ouais. C'est vrai qu'il y a mieux.
Ok, et ben on va enchaîner avec un truc. Alors c'est une petite brève parce qu'on n'a pas trop d'infos, donc c'est juste pour l'évoquer. Donc en fait, on a appris que le 2 janvier, donc pour la nouvelle année, il y a un détenu de 17 ans qui est à l'EPM de Mézieux, donc cet EPM qui continue à faire la une pour son fonctionnement.
Il y a déjà eu un suicide là-bas, oui.
Exactement, il y a eu des merdes.
Il y a eu des tas de tentatives de suicide où les gosses se pendraient parce qu'ils veulent la télé.
Voilà, donc
c'est ça l'histoire.
Donc ouais. C'est ce PM qui soi-disant est super mais qui en fait déraille complètement. Et donc là, il y a un jeune de 17 ans qui là aussi apparemment aurait pété un plomb. Et c'est un détenu qui était considéré sans histoire par l'administration pénitentiaire et qui là a foutu le feu à ses vêtements. Et il serait légèrement brûlé et là il sera à l'hôpital pour observation, quoi. Donc là on n'a pas trop d'infos. Mais bon, plus lancer peut-être un appel à témoignage. Si des gens savent quelque chose ou truc, bah, qu'ils n'hésitent pas à faire tourner l'information. Et voilà.
Ils appellent à quel numéro ?
Vous pouvez appeler 0477 438 895. Vous pouvez aussi nous écrire, peut-être. On n'a pas de mail, on est complètement ringard. Mais par contre, vous pouvez nous envoyer des infos par la poste.
Des signaux de fumée.
Ouais, ou des signaux de fumée. Alors la poste, c'est donc émission Papillon chez Radio Dio, 14 rue de Roubaix, 42100 Saint-Étienne. Nous attendons vos infos.
Donc voilà, et là on va enchaîner toujours avec les petits qu'on incarcère. Et là c'est plus... c'est au niveau de Givors, donc toujours vers Lyon, où en fait, c'est l'IB de Lyon qui, le 12 décembre, nous annonce ça, qui nous apprend que depuis août 2007, donc la maternité de l'hôpital public de Givors, en fait, met en place des bracelets électroniques pour les bébés, quoi. Donc apparemment, il y a 90% des parents qui acceptent le principe, hein, pour éviter les raptes, etc. Et bon, il faut dire que... Enfin, ça, c'est l'article qui nous l'apprend aussi, qu'avant, il y avait quand même pas mal de maternités qui faisaient ça, qui utilisaient le système où ils mettaient une petite puce dans la chaussette du bébé au cas où il se faisait kidnapper, mais soi-disant, ça marche moins bien. Donc finalement, on est passé au bracelet électronique. Et c'est comme un truc qui a quand même un petit coût. Hein, quand il a été installé, ça a coûté 20 000 euros en investissement. Et après, c'est 4 000 euros tous les ans, quoi. Donc voilà. Et le directeur s'en cache pas. Il dit, bon, bah, ça permet de rendre... notre maternité attractive, quoi. Donc le mec, pas de pitié. Mais par contre, ce qui est assez fou, c'est que donc lui, il se défend surtout, c'est d'avoir mis en place un système tout sécuritaire et que il faudrait surtout pas en fait faire le lien avec le bracelet électronique en prison, quoi. Bon, bah, vu que nous, on a l'esprit un peu tordu et qu'on voit le mal partout, et ben on fait le lien, quoi. Parce que quand on voit qu'aujourd'hui, on va dans la criminalisation des gamins, qu'on veut les incarcérer plus jeunes, qu'on dit que comme en 2005, l'INSERM, qui est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, qui dit qu'on peut déceler des troubles chez l'enfant dès l'âge de 3 ans. Et ben,
le rapport Benisti.
C'est ça. Et ben, voilà, ou que Sarkozy dit qu'il y a un gène du pédophile ou des trucs suicidaires. Bon. Et ben, nous, on voit un lien avec ce bracelet électronique. Et on fait le lien encore tout à l'heure à dire que le monde de l'intérieur et de l'extérieur, les frontières sont de plus en plus floues et que...
Ben voilà, on banalise. Et entre les tatouages, les piercings et les bracelets électroniques, bienvenue à la puce sous la peau dans peu de temps, quoi. Bien plus, elle va arriver bien plus vite qu'on ne le pense.
Exactement. Non, mais ce qui est dingue aussi avec cette histoire, c'est, c'est deux secondes, hein, le côté générationnel, en fait, parce que généralement, on dit toujours, c'est les vieux qui ont peur, etc. Et là, 90% des parents, donc des parents, c'est censé être jeunes, mm-hmm. qui acceptent ça. Enfin,
faut se dire aussi,
ça pose question quand même, comme il y a bien le côté qui nous est... dans la population jeune qui rentre enfin le côté sécuritaire qui rentre dedans quoi et ça fait le lien aussi avec tout ce que enfin on cherche le biais de la jeunesse pour faire entrer le côté sécuritaire et avec les bornes biométriques etc par exemple dans les lycées les collèges
les passes Navigo
finalement c'est peut-être pas les vieux qui ont le plus peur.
Non, et ce qui est assez dingue c'est que cette maternité était en perte de vitesse face à des instituts privés, et là...
C'est un business.
Elle a repris un boom, ouais.
C'est un business. Une logique financière.
Ouais, sur les 90% aussi, je pense que c'est... Enfin, je ne sais pas trop comment c'est tourné, mais peut-être que les 90% des parents, ils sont pour le... Enfin, ils ne veulent pas que leur gamin se fasse... Ils ne veulent pas se faire kidnapper leur gamin. C'est peut-être plus ça que d'être favorable au fait de mettre un bracelet à leur gamin.
Et puis aussi...
qu'ils acceptent le principe.
J'aimerais bien savoir si ce sondage, il a été fait avant ou après l'histoire du gamin qui s'est fait... Parce que on en a quand même pas mal parlé, oui, état d'urgence, je sais plus comment ils appellent ça.
Je pense qu'elle a été faite après, parce que le directeur fait référence à cette histoire-là pour justifier.
Tu vois, on en reparle dans 2 mois, le sondage dira peut-être pas la même chose, quoi, parce que bon, ça a quand même bien fait
un exemple, excuse-moi. Quand tu diabolises des faits divers à n'en plus finir, et que tu surfes sur les archétypes de l'inconscient collectif, c'est-à-dire tout ce qui nous renvoie à l'enfant, le pot, d'accord, on est tous, même les plus radicaux, quand ça nous touche, un gosse il s'est fait enlever. On nous vend de la société parfaite, c'est-à-dire où il n'y aurait pas d'enlèvement, mais ça n'existe pas. Tant que les gens n'auront pas compris, les jeunes en particulier, qu'on est en train d'investir à fond, on s'en sortira pas. En Finlande, par exemple, la Finlande s'est posé la question. On est le pays du Nord qui enferme le plus. À un moment donné, ils se sont posé cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour désengorger? Ça a été un travail avec des hommes politiques et des médias. C'est-à-dire fini la diabolisation des faits divers. Donc, quand tu diabolises plus un fait divers, tu ne distilles plus la peur. Donc tu fais pas, une fois que t'as pas peur, t'as pas besoin de sécurité. Et du coup la Finlande est le pays qui incarcère le moins, pas plus de récidives, voire moins. Et là il faut se poser les bonnes questions.
Et on va vraiment pas dans ce sens là
et on en est loin, on s'en éloigne. À chaque fois que tu vois que moi je me pose ces questions là quand je vois un type, si tu vas visiter un hôpital psychiatrique où sont les malades dangereux, c'est pire que t'en sors pas. C'est-à-dire à chaque fois ils nous font un lâcher de fou là de ces derniers mois, t'as des lâchers de fou et derrière il y a les réformes qui vont avec. Et tout le monde dit, tout le monde accepte parce que personne ne veut voir son père tué à coups de hache, personne sans réfléchir. La télévision aspire notre faculté à réfléchir parce que c'est pas tout le monde qui a pas la télé chez soi, c'est pas tout le monde. Et la majorité des personnes, elles sont dans encore une fois dans le prison break ou dans le total sécuritaire et non pas dans une réalité qu'elles pourraient se construire. Voilà. Enfin moi c'est mon point de vue.
Ouais, non, mais c'est...
Ça n'engage que moi.
Justement, on va enchaîner dans les prétextes aberrants, enfin les interdictions ou trucs aberrants sous prétexte de sécurité. Donc après les bracelets électroniques pour pas se faire piquer son bébé. On a l'interdiction des capuches pour éviter la violence en prison. Donc l'autre fois, on était à côté de la maison d'arrêt de la Talaudière, j'ai halluciné. J'ai vu qu'il y avait une note aux familles qui disait « Désormais, les vêtements à capuche sont interdits, donc n'en amenez plus aux gens que vous venez voir. » Parce que vous savez, on peut passer des sacs de linge, on les récupère, on les lave, on en ramène. Et ça m'a quand même bien fait halluciner, parce que... Si vous aussi, chers auditeurs, vous êtes amateurs, amatrices de capuches, vous saurez que c'est pratique, c'est confortable, et puis
ça tient chaud aux oreilles.
Des fois, ça fait du bien, puis ça tient chaud aux oreilles, et puis quand il pleut, c'est bien utile, etc.
Je me suis dit,
qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi ? Et je suis allée fouiner un petit peu, et j'ai trouvé une circulaire de la direction de l'administration pénitentiaire qui date de juin 2008. Donc, c'est pour améliorer la gestion de la détention et, entre autres, amoindrir la violence. Donc, en gros, cette circulaire, comme d'habitude, elle sous-entend, mais de manière presque explicite, que la violence, de toute façon, c'est de la faute aux détenus, parce que c'est des gens intrinsèquement violents. Bien entendu, la violence, ce n'est pas le système pénitentiaire, ce n'est pas l'administration, c'est uniquement les gens entre eux. Il y a tout au plus une légère allusion à la surpopulation qui pose aussi des problèmes, mais bien entendu, la surpopulation, c'est un problème naturel, on ne sait pas d'où il vient. Et bref, dans ce circulaire, il y a diverses petites actions, comme ils les appellent eux-mêmes, qui sont conseillées aux directeurs des prisons pour améliorer un peu la vie en prison et pour éviter, entre autres, violences et suicides. Et il y en a plusieurs qui... En soi, il y en a qui sont pas trop mal. Hein. Moi, j'ai trouvé... Enfin, pas trop mal, j'en sais rien, mais je me suis dit que ça pouvait être pas trop mal. Genre, réduire les moments d'inactivité, préserver l'anonymat des...
Voilà. Voilà ce que ça veut dire,
ouais,
clairement.
Je pense. Préserver l'anonymat des mises en cause pénales, parce que, en gros, selon pour quel délit t'es enfermé, tu peux être moins bien vu, bon. Voilà. L'amélioration de la surveillance, bien entendu, toujours plus surveillée,
contrôle,
etc. Maintenir le lien avec des détenus avec leur famille. Voilà, donc ils disent ces trucs, il faut les maintenir. Là, hein. Bon, alors c'est toujours des déclarations d'intention, ce serait peut-être pas mal. Sauf que sur toutes ces préconisations dans ce circulaire, ce qui est très rigolo, c'est que c'est tout « Oh, nous vous encourageons à faire ça dans la mesure du possible ». Oh, nous proposons aux chefs d'établissement, selon leurs contraintes locales, etc., etc., de faire ceci, d'aménager les parloirs, etc. Donc, ça fait un peu bidon. Et sauf qu'au milieu de toutes ces préconisations, si jamais vous voulez bien les faire et que vous pouvez, etc., il y a une interdiction formelle, c'est nous vous demandons d'interdire les capuches en prison. Le prétexte, c'est que les auteurs d'agressions, de rackets et de violences dissimulent leur visage derrière leurs capuches. Voilà, donc,
et les hérisses
Les hérisses et les matons cagoulés, ils dissimulent leur violence derrière leur cagoule, mais c'est pas encore interdit. D'ailleurs, je me suis demandé, parce que j'ai demandé, il y a un copain qui est enfermé à la Talo, on a discuté de ça, il a dit effectivement, on n'a plus le droit aux capuches. On a demandé pourquoi, on nous a dit que c'était quand il y avait des bastons ou des projections, c'est-à-dire que c'est pas uniquement de la violence entre détenus, les projections c'est... une menace pour l'ordre, n'est-ce pas? C'est quand on balance des trucs dans la cour de promenade pour les prisonniers. Ben voilà, c'est les matons leur ont répondu, c'est pour ça que vous avez plus le droit aux capuches. Et donc moi, je me suis demandé, à quand est-ce qu'ils vont interdire les bonnets et les écharpes? Parce qu'on peut aussi se cacher derrière un bonnet, une écharpe, derrière un col roulé, derrière plein de trucs. Et nos amis détenus vont finir à poil, voilà, sous prétexte de sécurité.
Donc, on brandit le sécuritaire jusqu'au bout de la capuche, quoi. Alors, sinon, il y avait la blague aussi de la fin décembre sur les nouveaux centres pénitentiaires, tout sécuritaire, tout automatisé, tout électrique, enfin, voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Donc, il y a une grosse panne d'électricité qui a affecté l'éclairage, le chauffage, mais aussi tout le fonctionnement électrique des portes, etc. Donc, ce qui fait qu'il y a eu un transfert de 90 détenus vers d'autres prisons du Grand Ouest. Et pour la bonne blague, justement, cette prison, elle a été inaugurée le 8 décembre, me semble-t-il. C'était début décembre, bref. Par Rachida Dati. Ouais. Donc, elle est venue en grande pompe, forcément. Et puis, vendre son projet, dire « Regardez comme c'est chouette, tout fonctionne bien », bref. Donc là, pour le coup, là, il y a tout qui capote pour elle. Là, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc pour raison humanitaire, c'est ce qu'a invoqué, entre guillemets, hein, la paix. Donc il y a eu ce déplacement de 90 détenus. Donc aussi, ils disent qu'ils ont essayé de trouver des places à proximité pour maintenir les liens familiaux. Donc toujours ça dans le discours de citoyenneté durable, on est gentil, regardez ce qu'on fait. Ils ont aussi organisé, parce qu'ils ont pensé à ce que les détenus aient quand même un repas le soir. Donc ils précisent aussi, oui, les départs ont été organisés après le repas du soir. Bon, de toute manière, ça n'a rien pour le vérifier, hein, ils peuvent bien nous dire ce qu'ils veulent, voilà. Et quoi qu'il en soit, pour ceux qui avaient des parloirs le lendemain, ça m'étonnerait qu'ils aient appelé les familles pour leur dire, surtout si c'est un centre pénitentiaire, ça veut dire que c'est soit forcément une maison d'arrêt ou soit un centre de détention, ou un centre de détention une centrale. Donc, ce qui fait que les gens viennent aussi forcément de loin, quoi. Donc, à partir de là, enfin les familles, c'est clair que bah elles ont dû s'inquiéter, voilà, enfin qu'elles ont appris ça par les journaux et bon bah voilà, donc avec leur tout sécuritaire et tout, encore une fois, voilà ce qui se passe et
le pire, c'est qu'ils mettent ça sur le compte de l'humanitaire, un
voilà,
acte,
c'est ça.
C'est un grand fourre-tout, l'humanitaire.
Voilà, donc ils nous parlent de plateau repas, enfin plein de choses comme ça, d'hébergement, alors qu'on non, c'est des cellules.
On se croirait à Roissy quand il
voilà,
y a
ouais,
un retard
c'est,
de retard
c'est l'hôtel,
d'un vol.
Quoi, c'est pareil.
C'est
voilà.
Assez fou ça. C'est
donc
fou.
Pour
ça
Rachida,
prouve surtout, ça démontre la vacuité de leur projet de nouvelle prison et. Que voilà que quand on veut faire du trop vite comme ils font là et gagner encore plus la cupidité voilà ça se retourne toujours quel que soit le contexte hein. Là c'est un contexte sécuritaire mais ça se retourne toujours contre soi et là c'est l'exemple
puis,
type
surtout qu'ils disent que les détenus ont été transférés vers d'autres prisons du grand sud-ouest. Alors sud-ouest de la France
et le
grand sud-ouest.
Imaginons qu'il y aurait eu les 680 détenus
Ah ouais, parce que là, il y avait 90 détenus. Donc
il
n'y
en avait
là...
que 90, ouais. Elle n'était pas à son maximum.
Ouais,
en imaginant qu'elle ait été remplie à son maximum,
détenus,
ça aurait donné quoi ce bah, genre c'était... de panne, ce ouais. Genre de... Alors, bien sûr qu'il y a des mecs qui vont penser à partir. De toute façon, on en est là aujourd'hui. Les mecs, ils pensent ou à se suicider, ou la corde, ou l'évasion. Il faut se poser la question, pourquoi, quoi.
Donc voilà, donc puis ça se trouve peut-être que certains, ils en auraient enfermé certains dans des portes, ils n'auraient plus, enfin vu que ça marchait plus, voilà, ils les auraient laissés là. Ouais. Bon, bah, on va peut-être passer un petit morceau musical, et puis après on s'attaquera... Ah pardon, alors, excusez-moi, je n'ai pas suivi. Donc il y a un petit morceau, un petit bout sur le procès Ferrara.
Oui. Alors le procès Ferrara, donc pour ceux qui bon qui connaissent pas, donc Antonio Ferrara, en fait il a participé à pas mal de, enfin on sait qu'il a participé à un braquage, c'était en 2003 donc donc en fait il braquait les fourgons de Brinks avec une espèce de parabole placée sur l'explosif, donc ce qui fait que l'explosion était un peu plus puissante de l'intérieur, donc tout ça bon ça c'était ses techniques donc on s'en fiche un peu. Et donc, comment ça a été traité médiatiquement ? C'est-à-dire qu'on nous disait, on nous fait toujours ce cliché-là du mec, tout simplement parce qu'il braque, il va braquer. On emploie des vocabulaires, donc on disait que c'était un truand, une grande figure du banditisme français, tout ça. Et on parlait aussi d'un commando, donc il y a aussi, quand il était en prison, incarcéré, il y a une quinzaine d'amis à lui qui sont venus le faire libérer. Donc ils ont effectivement attaqué la prison de Fresnes avec un lance-roquettes, donc forcément il y avait une porte blindée, donc ils n'allaient pas la faire sauter à coups de pied. Et donc ils ont essayé de neutraliser les matons qui étaient dans les miradors pour pas qu'ils leur tirent dessus. Donc là aussi ils ont tiré sur les miradors. Donc voilà, c'était pour rappeler ça, rappeler toujours ce côté que c'est pas parce qu'on s'évade de prison, c'est pas parce qu'on a braqué des banques qu'on est forcément quelqu'un de dangereux pour la société, quoi. Il y a toujours cette notion d'ennemi public numéro un qui revient directement. On n'a pas le temps de parler de l'affaire, on connaît même pas le personnage, que déjà il est étiqueté ennemi public numéro un par la classe dirigeante. Voilà, donc pour rappeler un peu ça. Et puis aussi, donc récemment, il y a eu son procès. Donc tu peux peut-être nous dire d'autres trucs.
Ouais, en fait.
Ça arrive.
Ouais, ça arrive. Bah ouais, toujours la notion d'ennemi public numéro 1 qui marche bien. D'ailleurs, il paraît même que, je sais pas si toi qui étais Catherine au procès, il paraît même qu'il y aurait des acteurs qui seraient passés.
Ah, j'étais là ce jour-là.
Avec les acteurs pressentis pour un futur film sur lui, parce que.
Alors, tu
film,
sais, on savait pas si c'était sur Antonio Ferrara ou sur Karim Achoui.
Ouais, d'accord, hein? Ouais. Mais. Bon, tu aurais dit, c'est une histoire qui, voilà, qui fait.
Et alors,
parler,
ce qui était incroyable, c'est que des gens attendent pendant des heures, des fois, pour rentrer dans le palais, et que quand ces acteurs sont arrivés avec la production, ils sont rentrés tout de suite. Oui. Et ça, je trouvais ça insupportable. C'était vraiment comme cracher au visage des personnes qui se tapaient la queue depuis, qui viennent au procès depuis le début. Parce qu'il y a eu quand même 9 semaines et demie de procès.
Ouais, bien sûr, bien sûr. 9 semaines et demie, c'est long et ça doit être fatigant.
C'est éprouvant.
C'est fatigant.
Faut imaginer.
Ceux qui étaient dans le box, je pense qu'ils devaient être sur les rotules. Et voilà. Enfin bon, tout ça pour dire que, ouais, comme il disait, le traitement médiatique. on a l'impression que c'était la Troisième Guerre mondiale, alors que bon, il y a juste des gens qui ont fait sauter une porte et tirer sur des miradors. Ça reste avant tout le procès d'une évasion, le procès d'une évasion de la prison de Fresnes, qui est quand même un symbole, je pense que Catherine pourra en parler, un symbole de... Voilà, c'est un affront fait à l'État, parce que Fresnes, c'est quand même une prison censée, la citadelle, quoi, comme on l'a appelé assez souvent. Donc c'est quand même pas n'importe quelle prison. C'est un procès aussi où il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés.
Sauf du côté des évadeurs.
Sauf du côté de, justement, qui a, je crois que c'est Doumé qui s'appelle, je ne sais plus.
Dominique Battini. Ouais.
Voilà, ah, c'est lui, d'accord. Voilà,
qui a perdu un œil.
Qui a perdu un œil, exactement. Mmh. Donc les matons, enfin la matone en l'occurrence, qui était dans le Mirador, elle n'a pas eu une goutte de sang. Et en plus, il a été quand même à se prouver que c'était pour neutraliser le Mirador. Chose qu'apparemment l'avocat de la matone justement disait, ils ont tiré sur ma cliente. Apparemment c'est ce qui a été dans la plaidoirie.
C'est sa spécialité à Winter. Voilà. C'est l'avocat de la partie civile dans tous les procès d'évasion. Et donc c'est son rôle de stigmatiser, de diaboliser et de renforcer le potentiel de peur pour obtenir le maximum de dommages et intérêts.
Et puis il disait il a une citation aussi, il disait, donc cet avocat-là, en parlant de sa cliente, donc la matone, si elle s'était mise à la fenêtre pour tirer, elle ne serait plus là pour en parler. Donc toujours cette légitimité qu'auraient les matons à flinguer des gens, quoi. Flinguer des détenus, quoi. C'est, pour lui, ça coule de source, quoi. Si elle s'était mise à la fenêtre pour tuer quelqu'un, eh ben, elle se serait fait tirer dessus par eux, quoi, par le commando, quoi.
Ce qui est terrible, sur ces deux surveillants qui étaient dans les miradors, dont elle...
Mirador blindé.
Ouais. Non, ils n'avaient pas, depuis l'évasion de Memphis, alors qu'ils font des travaux à hauteur de 300 000 euros pour garder un type comme Antonio Ferrara, ils n'ont pas renforcé les miradors. Donc ce qui démontre le peu de considération qu'ils offrent à leur personnel. Mmh. Or, sur ces deux surveillants, un a eu une médaille, un a été reconnu et passé de grade, et cette femme n'a pas eu de reconnaissance... En dehors le fait qu'elle soit une victime et puis qu'ils en avaient besoin pour faire avancer leur machine. Cette femme, elle est vraiment considérée comme de la merde. Et le directeur, quand on l'interroge, le directeur qui était là à Fresnes à l'époque des faits, il dit on ne doit pas ne pas tirer. Mmh. Et le procureur en rajoute une couche en disant les surveillants ne sont pas là pour se mettre à plat ventre. Pour 1300 euros par mois, tu dois donc te faire tuer, d'accord ? Si ces gars étaient venus dans l'intention véritable de tuer, elle serait morte. Or, même dans les procès verbaux de la police, qui n'est pas forcément gentille avec ce type de détenus, il n'y a pas une fois le mot intention de tuer qui apparaît. C'est toujours neutraliser le Mirador.
Mmh. Ils auraient très bien pu lancer un coup de lance-roquette sur le Mirador, là ça aurait été réglé, quoi. Ils auraient pu faire ça facilement, hein, s'ils voulaient vraiment tuer tout ça, ils lançaient une roquette dans le Mirador, c'était bon.
Ouais, c'était bon. Mmh.
Voilà. Mmh. Alors qu'ils ont quand même. Ils sont quand même contentés de simplement tirer sur le Mirador pour pas que la matone ou les gens se servent de leur fusil à l'intérieur, quoi. Ce qui est le minimum, ils vont pas se laisser flinguer comme ça, quoi.
En tous les cas, je suis allé le jour où il est passé le directeur de Fresnes à la barre. C'était immonde ce qu'il disait. Ripper, l'avocat d'un des accusés du box, a démonté point par point. Et d'ailleurs, il lui a posé les questions sur le suicide, sur l'évasion, s'il faisait un parallèle entre les deux, etc., etc. Et le jour où il a fait sa plaidoirie, Ripper, qu'il a fait une vraie critique sociale du système. Et s'il y avait des avocats, un peu plus d'avocats qui avaient ce courage-là, qui préféreraient, voilà ce que je disais hier, avoir un destin et une carrière, eh ben, on serait un petit peu moins dans la merde. Bon, ben là, je rêve, puisque les avocats, par essence, ils sont les bras armés du système. Ouais. Et qu'ils ne sont pas là pour te sortir de la merde. Ils sont là pour parler de droit. Et dans ce procès, il y a eu tout sauf du droit, ce qu'a souligné Ripper. Et pour justifier... autant d'escortes, autant de frais de millions d'euros injectés pour faire peur à la population et diaboliser les accusés, il fallait trouver de la matière. Mmh. Et là, on assiste à une vraie dérive du droit. Les dossiers sont creux. Ils ne se basent que sur la seule parole du maton. Mmh. Le maton qui n'est jamais clair, il dit « je pense ». Le maton félon, quoi, qui a
Crozic,
Crozic.
Qui est censé avoir amené les explosifs à Ferrat, c'est ça ?
Voilà, qui a pris 9 ans, je crois, ou 11 ans. Mmh. Et il se base, d'un côté, on le fustige, on le condamne, et de l'autre côté, pour dans un dossier où il n'y a pas d'éléments, mmh, on se sert des éléments donnés par un escroc qui a balancé des potes à lui, des matons, etc., etc., pour asseoir une supposée culpabilité. Cette histoire, l'a dit Ripper, ce n'est jamais que 3 petits trous dans un mur et un petit homme qui s'en évade.
Mmh. Et puis, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'il y a eu quand même 6 ans d'instruction, ce qui est le maximum, je crois, pour une instruction comme ça. Donc 6 ans d'instruction.
Pour mes fils, pareil, toutes ces histoires comme ça.
Alors que, bon, avec un dossier vide comme ça, on se demande ce qu'ils ont fait pendant 6 ans. Mmh, et surtout que pendant ces 6 ans, Ferrara est resté à l'isolement, quoi. À l'isolement total, quoi. Donc ce qui est en plus pas légal. Et justement, c'est ce que, enfin, dans ce process, aussi permis, mine de rien, bon, il y a quelques articles qui sont sortis dans la presse, mais c'est quand même permis un peu de parler de, bah, justement, de l'isolement, des conditions de détention pendant le procès, enfin, des conditions des accusés qui étaient dans le box, et des conditions d'isolement, quoi. Même si, bon, il n'en est pas sorti beaucoup, je trouve.
Non, non, et puis ils ont refusé d'assister à leur procès. Faut savoir, donc quand tu refuses d'assister à ton procès, t'es où ? T'es dans la souricière, c'est encore pire, le pire endroit qui existe. Au-dessus, t'as tous les touristes qui se baladent et qui prennent des photos, et en dessous, c'est les entrailles du monde.
Ouais.
C'est-à-dire que t'es confiné dans le noir, parce qu'il fait extrêmement sombre. Tu bouffes pas, il n'y a pas de repas chaud. Mmh. On vient t'extraire. Alors, ce qui se passe, on vient te chercher en prison. Le matin vers 6 heures, on te réveille. Tu rentres le soir, quand tu arrives dans ta cellule, il est 2h, 3h du matin. C'est-à-dire un rythme mais effroyable, quoi. Mmh. Et puis tu te retrouves dans ces procès. L'autre fois, j'étais avec la présidente de la cour d'assises, Madame Drey, Jeannine Drey. C'est elle qui a mis 30 ans à mon fils aîné. Hein, il avait 24 ans. Le procureur demandait 20 ans. Elle a jugé, c'était son premier procès, et alors qu'elle a un père magistrat qui était plutôt de mouvance honnête, qui essayait de faire le mieux, appliquer le mieux possible son travail, et ben elle s'est démarquée en étant dans la rigueur, en étant vraiment proche de l'État, quoi. C'est-à-dire, il faut l'écarter.
Bon agent,
c'est un procès politique, le procès Ferrara. Et pour justifier tout cet investissement financier, et ben voilà. Et donc l'autre fois, j'étais avec elle, je me retrouve avec Madame Drey dans le restaurant du palais de justice. Mmh. Et je me suis dit, mais c'est merveilleux, cette femme. Elle a aucun problème, elle mange jusqu'au café. Elle a rien loupé de l'entrée au dessert. Elle a le droit de... Mais je me disais, c'est fabuleux, quoi, d'avoir été visiter des cages où des mecs qui sont en train de crever depuis des semaines. Et puis, être aussi à l'aise pour manger, pour statuer sur leur vie, mais ça doit être une force qu'on t'apprend depuis tout petit, ça. C'est quelque chose qu'on te met...
Tu prends des cours,
il y a quelque chose, c'est pas possible. Ou alors, il y a le gène de,
le gène
de la sécurité.
Le gène des puissants.
Je vois rien d'autre.
Le gène de la bourgeoisie.
La race des seigneurs, et tout ça.
Oui, voilà.
Ouais, ça doit être...
Non, mais
ouais.
c'est exceptionnel, quand même.
Ouais, c'est sûr. Il y a une autre petite anecdote dans ce procès qui est quand même assez drôle, c'est l'histoire du juré, qu'apparemment les jurés, d'après ce que j'ai entendu... Ouais, l'histoire du juré... Où apparemment les autres jurés étaient un peu bon, les jurés bon petits soldats, un peu d'après ce que j'ai entendu dire. Et lui, c'était le seul qui était sans être virulent et trop virulent non plus. Le seul qui questionnait un peu, qui avait l'air intéressé par un peu justement la plaidoirie des avocats qui étaient dans le box et tout. Et lui, comme par hasard, il s'est fait complètement écarter des jurés pour raison médicale. Après,
ils l'ont fait souffler dans une pipette.
Voilà.
Voilà, ils ont vu qu'il y avait des substances qui leur convenaient
pas. Oui, il avait
pas.
Peut-être fumé un...
Mais, non, mais c'est surtout des substances anarchistes, sûrement dans sa tête.
Ouais, sûrement.
Et ça, c'est ce qui leur plaisait pas.
Ouais, bah sûrement.
D'accord. Si tu es pas leur ami, t'es leur ennemi. obligatoirement à ces gens-là.
Ouais, bien sûr, ouais. Et donc du coup, bah voilà, ça se finit par combien le, je crois que bah, la peine
193 années voilà. Requises, voilà.
deux siècles
voilà de prison requise, ouais. 17 ans pour Antonio, enfin tout, on va pas toutes les
énumérer. Oui, 7 ans
pour
l'avocat,
Karim Achoui, 11 pour Croziz, Malek, je crois, Karim Ouabas, 15 alors qu'il était au Maroc ou 10.
Voilà, ouais.
Enfin un truc énorme.
Ouais, tu disais tout à l'heure.
Les fameuses personnes du commando entre guillemets, il y en a apparemment, il y en a vraiment que deux dont donc le Dominique celui qui a l'œil et Antonio parce que bon lui forcément il était là ou s'il est vraiment prouvé qu'ils étaient là ce soir-là. Pour les autres, il y a rien quoi, il y a zéro, et notamment le coup du tampon sur le passeport comme quoi je sais plus comment il s'appelle mais il était au Maroc pendant que ça s'est passé. Ils n'en ont pas tenu compte, alors que c'est quand même une...
Mais c'est là qu'on arrive au point de rupture. Si même tous ces gens qui réclament un état de droit, ils ne sont pas capables de le faire appliquer, où on va ? Tu vois ce que je veux dire ? Ils ont créé de toutes pièces voilà, des concepts pour valider la diabolisation et, encore une fois, le coût financier de ces opérations d'escorte, d'hélicoptères, de cinéma, parce que c'est du cinéma à Hollywood. Je veux dire, ils vont nous en prendre un film comme ça, de toute façon. Et c'est du grand Hollywood.
Ah oui. Voilà. On pourrait penser aussi que c'est pas aussi qu'ils ont condamné sans preuve parce qu'ils sont persuadés que c'est eux. Et puis il y a eu quelque chose d'assez, c'est une attaque au lance-roquettes tout ça. Mais sur Saint-Étienne, par exemple, quand on va au tribunal, déjà on se rend compte pour des petites affaires de comparution immédiate, pour des simples petites affaires que même si le procureur n'a pas de preuve, ça le dérange pas de demander des peines de prison ferme quoi, alors qu'il a aucune preuve dans son dossier. Donc déjà, faut pas penser que c'est parce que c'est un commando qui a attaqué la prison.
Non, mais moi je pense pas.
Je sais bien.
Tous
je
les
pas
jours
ça pour
dans
toi.
Les dans ouais. les procès, ils créent de nouveaux concepts qui se fondent sur l'intime conviction, sur la supposée dangerosité, etc.
Ouais, la prévention,
etc.
Ouais.
Et là, on arrive à du n'importe quoi qui va permettre de garder en tôle ad vitam aeternam le premier dissident qui passe. C'est tout.
Ouais.
Et c'est aussi bête que ça. Quand tu vois les délits qu'ils créent pour les anarchos Non, attends,
Mais là, c'est pareil, ils les gardent les deux parce qu'il faut justifier tout le tapage qu'ils ont fait derrière. Donc ils se disent, on va quand même en garder deux.
C'est ça la dérive. Et personne ne dit rien.
Ouais, c'est sûr.
Personne ne dit rien. Alors qu'il n'y a rien, des dossiers vides, creux. T'as des horaires de train chez toi, ça y est, t'es mort. Bah, c'est juste parce que t'as été milité contre le CPE. Faut arrêter.
Non, mais c'est sûr. Ouais.
Je crois qu'on va faire
en
une
parlant d'arrêter, on va parler d'une musique.
Ça panique.
Il y a pas
alors,
trop de musique.
On va écouter un peu de rap.
C'est un morceau de. Il y a Kadas de La Mixture et Al.
Ils portent des suites à capuche, les rappeurs en général. Faut se méfier.
Kadas. 90, début dans les caves. On est toujours là, frère. Comment on sait, alors comment on sait, je rappe à l'ancienne, à l'ancienne. Je suis seul tout, que Dieu bénisse ma reine. J'encule les brebis, tu bénisses la scène. Janvier 2003, je pose la date sur l'écran. C'est juste un trait à la crayon, plus sous écrou. Quand la vérité blesse, on l'enferme. J'ai pris 15 ans ferme, marqué à pile infâme. Piller la soie, à la crème. Ça disperse ma haine, je demande que ça. Voir plus loin qu'un troco sur une peu sage. J'apprends plus qu'on me trouve. Je tire ma peine sans rechigner. Demain je sors sans signer. Le cœur heureux de saigner. Pendant que tu cherches l'enculé pour te renseigner. Dans ma solitude je m'abandonne. C'est comme un parloir fantôme. Je parle au mur avec la force de 100 hommes. MC, ça rime à rien que tu chantonnes. Parfois je sens bien que la famille doute. Combien ça coûte le prix d'une vie avec retour dans la soute. Sortir d'un trou pour marcher vers l'autre. Et destin de cafard. Écrasé par la peur de l'autre. Classé du mauvais côté de l'axe dans ton monde. On est nature à sourire quand on monte. Ça remonte au claquement de doigts et petit pas sur un son de funk. Déjà à l'écart comme un punk. On parle de vie qu'on mène et même qu'on parlait d'en vivre. Si peu d'histoire et tant de livres. Alors on sert ici et là et c'est de la survie et je cantine. À l'ombre de tes comptines. J'rappe à l'ancienne.
J'rappe à l'ancienne.
À l'ancienne.
À l'ancienne.
J'rappe à l'ancienne.
J'rappe à l'ancienne.
J'rappe à l'ancienne. J'rappe à l'ancienne,
j'rappe à l'ancienne,
j'rappe à
je rappe à l'ancienne. Si t'as la même, c'est ta rime, c'est la mienne. Moi je rappe à l'ancienne. Ça fait un moment que je rêve de quitter ta zone. Le rap c'est pas ma vie, c'est juste ma zone. Égoïste, j'espère avoir la santé au moins. Seul quand je prie, c'est moi avec un ange en moins. Mon éterne, vu de ma cellule, je compte les lunes. Les cheveux gris sur mon crâne et les dunes. J'ai tapé dans le gâteau, le crime a payé ma crise. Reste rien, ils voulaient que j'avale la cerise. J'ai jamais yé pour une bise, même saut. Sous le trottoir, ça sent le chaman, vivre j'aime ça. La carte m'envoie ce mandat tous les 6 du mois. Fidèle comme l'air, la rage entre mes 10 doigts. Ma gueule, un nom de plus au contentieux. C'était plus fort que moi, je voulais mon compte en Suisse. Victime de mes risques, un enfant de la France. Tous ceux qui sont tombés ont tenté leur chance.
Vivre avec son temps, c'est avoir un doigt pour cliquer, un doigt pour shooter. Mon peura est armé, chasse les stars parachutés. Prêt à bondir d'un utilitaire, quand la poésie devient paramilitaire. Ne me demande pas si c'est supportable, que les rappeurs en soient à faire des sonneries portables. Pas de caviar, c'est cassoulet quand on se met à table. Des rimes lourdes comme un bouillage wild. Mes fables sont faites de feu, de fonte. Chez moi le MIC est la réincarnation d'un fusil. Je fais sauter le fusible, le rap sait qu'on en veut à son derche. J'enjambe le corps du concierge. Dans l'obscurité, tu m'entends monter. Tu sais très bien que je ne suis pas venu pour prendre le thé. Je baisse les stars, le rap français va finir dans le décor. Ça va être sale, baisse les stores.
Vous êtes toujours à l'écoute. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Papillon. Oui, oui, tu n'en as qu'une. Sur Radio Dio 89.5. Donc, il est 18h42 et on va passer au gros morceau de l'émission, à savoir l'interview de Catherine. Et donc voilà. Alors, pourquoi déjà on t'a invité ? C'est parce que à chaque fois qu'on parle de la prison, on a dans les médias ou dans les médias, généralement, on parle de la prison sous l'angle du sensationnel, les évasions. Les prises d'otages, les morts en détention, enfin tout ce qui touche vraiment enfin, à ce côté sensationnel, sécuritaire, faites attention à vous, etc. Et on oublie dans la réalité de la prison qu'il y a aussi un autre angle d'approche, c'est les détenus, les proches de détenus en fait, c'est les grands oubliés. Alors eux, on n'en entend jamais parler dans les médias, jamais, jamais ici. Donc c'est pour ça qu'à Papillon, on a vraiment voulu faire un point assez large sur ça, et pour ça bah, on t'a invité, et bah voilà, alors si tu veux bien présenter ton combat, celui de l'ARPI, et bah, je te laisse la parole.
Alors l'ARPI, donc l'Association pour le Respect des Proches de Personnes Incarcérées, ce n'est pas mon combat.
J'ai dit ton combat est celui de l'ARPI.
Au départ, c'est sur une idée que j'ai eue, et devant tout ce qui ce que j'ai pu vivre pendant des années en tant que maire de détenu, qui m'a bien sûr incité à monter cette association. Mais dans l'idéal, j'aimerais que cette association se fasse au fil du temps avec les proches de personnes incarcérées. Pas que ce soit une personne ou une personnalité qui se démarque, mais que les idées, les actions à entreprendre, enfin tout ce qui doit se faire pour prendre une place à laquelle nous avons droit, nous en tant que proches de personnes détenues, se fasse par le seul biais des intéressés. Là, on n'est plus dans la théorie, on n'est plus dans le monde associatif. J'ai monté une association parce que j'y connais rien, j'aurais pu monter autre chose, un collectif. Je ne sais pas, voilà. Mais ça ne sera surtout pas sur ce registre-là. Pas sur le modèle la dame Cato qui te tient la main pour t'accompagner à la mort, certainement pas. Même si on a besoin, encore une fois, de ces maisons d'accueil qui dispensent un peu de chaleur devant les prisons. C'est pas notre but. Et donc là, on est en train concrètement de mettre en place un réseau pour rameuter le maximum de familles, de proches, leur redonner confiance, parce que ce qu'a très bien réussi l'administration pénitentiaire avec les proches, avec les familles et les proches de personnes incarcérées, c'est qu'en jouant sur la peur, justement, encore une fois, peur du transfert, peur,
peur des représailles,
peur de des représailles, peur qu'on te retire ton parloir. Et elles ont dissocié toute forme de révolte. C'est-à-dire que les familles, quand elles se rendent devant les prisons, elles ont peur. Tu retiens que ça. Elles veulent même pas. Tu leur donnes un tract, ça leur fait peur. Et nous, on voudrait restaurer un espèce de maillage, retricoter, là, pour le coup, des vrais liens, et leur dire, mais bon sang, vous n'avez rien fait. Vous n'êtes responsable de rien. Votre proche a dérapé sur l'autoroute sociale, vous n'y pouvez rien. Vous n'êtes pas coupable d'aimer une personne incarcérée, enfin un disqualifié social, ou simplement parce que vous le soutenez, vous n'êtes pas coupable de ça. Et c'est ce que, dans l'idéal, ce que j'aimerais réussir à faire avec toutes ces familles et ces proches de personnes incarcérées.
D'accord, donc en fait, il y a la création de liens, il y a cette part-là, de refaire du lien entre les familles et qu'elles se réapproprient en fait leur histoire.
C'est un vrai boulot. Hein.
Oui, ce qui est pas simple, parce que ouais, c'est effectivement, elles ont honte d'en parler, même entre elles en fait. Et il y a aussi un aspect plus technique et plus juridique en fait à l'ARPI, avec peut-être des conseils sur le droit pénitentiaire.
Ouais, c'est trop jeune. Il y a deux avocates au moins qui nous ont rejoints déjà. Donc, à terme. Des proches de personnes détenues subissent des traitements qui sont pas acceptables, ou des humiliations, ou des choses que j'ai pu voir à l'intérieur des prisons. On va essayer, si elles viennent nous rejoindre, d'amener ça sur le plan du droit et essayer de faire valoir avec des juristes. Mais bon, quand on se rend compte. La dérive justement de ce droit en question, je m'interroge encore une fois. Donc ça veut dire que ça va être très long pour toutes ces familles. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles vont avoir déposé plainte, elle sera classée sans suite et qu'on connaît le système, et il faudra aller devant des instances encore plus hautes. Et pour y aller devant ces instances, il faudra avoir épuisé tous les recours nationaux. Voilà.
Et
les avocats, à quoi ils servent, hein,
voilà. Et encore des avocats qui soient même, parce que c'est ce que disait lors du débat hier, des gens qui ont perdu un proche en prison, c'est que quand ils sont allés voir un avocat pour porter plainte, l'avocat leur a dit mais pourquoi faire.
Oui, ça c'est horrible. C'est pour ça qu'il faut restaurer avant toute chose, avant de faire des grands discours. Oui, on va faire ci, on va faire ça. Le premier objectif de l'ARPI, c'est de redonner confiance à ces familles, leur permettre de reprendre leur place. Elles ont un espace, en vrai, elles ont un espace politique même à saisir. C'est ça le premier objectif. Ensuite, quand cet épisode sera fait, et ça c'est un travail de longue haleine, quand cet épisode sera passé, ensemble, nous pourrons prendre des décisions. Lors d'AG ou de je sais pas comment ça s'appelle, de réunions, les idées les plus récurrentes, les doléances les plus récurrentes, qui celles qui reviendront le plus souvent, seront traitées en priorité. Et ensuite, les actions de la même façon, mais ça ne viendra pas ni de moi, ni de... mais bien sûr, je serai là, puisque je suis la présidente, c'est sûr, pour aiguiller un petit peu. Mais ça ne pourra se faire, dans mon idée, hein, telle que je vois cette association, que si les familles sont partie prenante. C'est comme un malade. Il va aller voir un médecin, le médecin va le soigner, mais il ne va pas le guérir. La guérison, elle appartient à la personne. Tu guéris que si tu l'as décidé. Ben, c'est pareil. Si tu décides d'entrer en résistance et te dire « Bon sang, j'ai rien fait, merde, je n'ai rien fait. Oh, mon fils, j'aime mon fils, c'est tout à fait normal. Mon frère, je l'aime. Mon mari, eh ben, il a fait ce qu'il a fait. Voilà, il y a une étape à passer. On l'a mis sur le côté, en prison. Tout ça, c'est bien compris. La prison, ça devrait être son rôle, c'est-à-dire écarter quelqu'un de la société un temps donné, puis une personne qui a enfreint les lois et les codes de cette société. Mais est-ce qu'on peut accepter qu'on y adjoigne les tortures, les brimades, les humiliations, et que par ricochet, les familles et quand je dis pas ricochet, des fois c'est de façon directe, subissent la condamnation de façon collégiale. C'est-à-dire que quand on condamne un gars, c'est toute sa famille, ou une nana, c'est toute sa famille qui est condamnée. Et ça, c'est pas acceptable.
Et justement, quand tu parles de ça, justement, quand on condamne quelqu'un, c'est toute la famille qu'on condamne. Tu parles d'espace politique à prendre. Mais quand il y a des enquêtes qui sont faites au niveau national, qu'on envoie des questionnaires aux détenus, récemment, il y a eu cette enquête. Et justement là, alors peu importe le,
mais ça fait juste, partie du jeu.
Oui, non, mais ça fait partie du jeu. Ce que je veux dire, c'est que là encore, les détenus, on les questionne pas, même si cette enquête, elle va nulle part, même si les résultats, ils sont encore pas présents.
Ça va plus loin que ça. C'est cette enquête. Moi, Gabi Mouesca, je l'aime beaucoup.
C'est le président de l'OIP.
Ouais. Mais dans cette enquête, ça a donné lieu à un rapport qui, comme d'habitude, a été accablant, et ça n'a pas fait avancer d'un iota l'histoire. Mais ce qui était terrible, c'est que quand j'allais en prison ou que des mecs m'écrivaient, et je leur disais, t'as pensé quoi de tous ces films qui ont été diffusés sur, comment ça s'appelle,
les
conditions pénitentiaires, c'était ça, c'était autour de la condition pénitentiaire.
Les états généraux.
Ouais, les états généraux.
Qu'est-ce que t'en as pensé quand je leur écrivais ça? Tu sais ce qu'ils me répondaient? Mais il me dit, je peux rien en penser. J'ai zappé. Dès que j'ai vu qu'il mentionnait même pas le mot isolement, je savais que ce n'était pas honnête. Mmh. Ils n'ont pas mentionné une seule fois le mot isolement. Voilà, c'est tout.
Et
pourtant, Gabriel Mouesca fait un travail vraiment remarquable. Hein. Mmh.
Et sinon, ce que tu disais hier à propos de l'association, l'ARPI, c'est la seule association en fait en France qui peut rentrer dans les parloirs.
Ah non, je dis que l'association ARPI, c'est une association de proches de personnes détenues.
Donc,
par essence, tu rentres dans le parloir. C'est pas une association ça a rien à voir avec le monde associatif. Ce ne sont que des personnes. Je reviens sur le problème de la guérison entre se soigner et guérir. Se soigner, c'est un autre qui peut le faire. Il peut te soigner, il va enlever ton symptôme, mais ta guérison t'appartient. Il y a que toi si tu décides. Et ben de la même façon, l'ARPI, ce ne sont que des personnes qui vont au parloir voir un proche. Et donc dans ce sens-là. Il y en a pas, alors je sais pas où, je les connais pas peut-être.
Et du coup, enfin, de par ce biais, pour recueillir des témoignages directement aussi, enfin,
c'est même... pas le but. C'est pas le but, c'est une des conséquences. C'est que malheureusement, quand tu te rends au parloir, t'es obligé d'avoir une vision qui t'appartient et que de la réalité. Et la réalité, elle est telle qu'elle te fait vivre même la grand-mère la plus calme. On va lui demander de retirer son soutien-gorge parce qu'elle a l'ancienne des baleines qui sonnent sous le portique. Voilà, c'est ça la prison et le vécu des proches de personnes incarcérées. C'est ça la réalité. Là, on n'est plus dans la théorie, dans le monde associatif, tu vois. C'est pour ça que c'est que des gens qui vivent le truc.
Donc, toi, justement, sur cette histoire de témoignage, tout ça, toi, tu as confiné le tien notamment dans un livre collectif qui s'appelle Fraternité à Perpète et qui raconte l'histoire de tes fils. Enfin, est-ce que tu peux en parler un peu? Est-ce que tu as envie d'en parler?
Oui, envie non, mais bon, je peux en parler un peu. Oui,
enfin,
non, mais
pour faire le lien après, voilà. Avec tentative d'évasion et conditions pour les évader et les proches de détenus qui ont voulu s'évader, en fait. C'est pour faire
voilà.
Ce lien.
Ouais, oui, non, voilà. Donc, en 2001, mes deux fils, le plus jeune est allé chercher... son frère, même si c'est un acte répréhensible aux yeux de la loi, c'est quand même un acte, un sacré acte d'amour. Et d'abord, une parenthèse, là, en 2007, à la cour d'assises, j'ai dit aux jurés, il y en a un d'entre vous qui aimerait pas, dans une situation inextricable, que son frère, sa sœur, son père ou sa mère viennent le chercher, l'extraire de cette situation, il me jette la première palle. j'ai pris cette symbolique parce que quel est celui d'entre nous, sincèrement au fond de lui, qui dans une situation, je ne parle pas forcément de la prison, hein, l'enfermement tu le retrouves partout, le dégueulasse tu le retrouves partout. Donc et je me suis dit, ce livre qu'on a fait avec l'insomniaque, le collectif, je vais essayer de le faire sur un autre mode, hein, où je vais mettre de l'humour tout en disant des choses. Donc moi j'ai essayé de décrire la tentative d'évasion comme si c'était une équipe humanitaire qui se rendait sur un lieu de voilà, un lieu où il y a eu un accident, etc. Et je l'écris sur ce mode-là, donc c'était assez léger, mais ça disait quand même pas mal de choses. Et j'ai tanné mes fils pendant des années pour qu'ils m'écrivent chacun une lettre. Ils ont mis au moins 2 ans à me faire cette lettre, et je te dis pas les parloirs pour que je leur ai fait pour qu'ils me la livrent. Mmh. Donc c'est vachement intéressant parce que t'as la mère, t'as les deux fils, t'as des acteurs extérieurs, t'as Afed Ben Othman qui est écrivain mais qui a fait de la prison, qui est un ami et qui a une réflexion vraiment intéressante. T'as une petite page et demie que Jean-Marc Rouillant, que j'ai rencontré à la prison de Lannemezan, a écrite. Et puis t'as Olivier qui n'a pas signé et qui fait toute l'introduction et qui explique les dossiers, les lacunes du dossier. Et là, tu te rends compte, quand tu lis l'introduction, comment le droit y dérive. Et comment on fabrique de l'ennemi public numéro un, comment on fabrique la dangerosité, comment on vend ça par médias interposés, et comment au final, quand t'arrives au procès, les peines elles sont déjà connues d'avance, elles sont jouées d'avance, l'histoire est jouée d'avance, et que s'il se passe pas un truc extraordinaire le jour du procès, eh ben t'es dans la merde. Et j'avais compris que le seul truc extraordinaire, c'était de renverser la vapeur psychologiquement chez les jurés. Et comme je suis passé 2 fois à la barre, j'ai fait vraiment le maximum de ce qui était possible. Je vous le disais hier, notamment j'ai pris la photo d'Éric Blaise qui est mort dans des conditions atroces en prison, le corps marqué, le visage tuméfié. Et je l'ai montré au juré, la présidente était hors d'elle, mais je la calculais pas. Moi, je lui disais, madame, je suis pas dans le box des accusés. Vous criez sur. Moi, ça me fait aucun effet. D'accord ? J'ai fait que des choses comme ça. J'ai raconté ma vie, j'ai fait vraiment. Mais sans tomber dans le truc pathos, misérabiliste, Zola, etc. Parce que justement, ils se servent de ça et puis ils condamnent. J'avais compris que les jurés, c'était la seule façon, c'était le seul biais. Et ça s'est passé. Les jurés ont commencé à me faire des coups d'œil. Le lendemain, ils ont offert des boîtes de chocolat dans le box à mes enfants. J'étais obligé de me cacher, de me sauver, pour pas qu'ils me parlent pendant le procès. Sinon, on pouvait casser le procès. Ça n'était que des choses comme ça. Mais c'en était gênant. Quand t'es dans la salle et t'as un juré... tu vois, c'est flippant. Non, mais ça en devient flippant. Mais en même temps, je me disais la partie. Pendant ce procès, t'as une jurée qui a pété les plombs. Qui a pété les plombs et qui est partie en claquant la porte du procès, en insultant la présidente. Parce que c'était tellement énorme la direction qu'elle voulait donner à ce procès que cette jurée n'a pas accepté. Je vais conclure là-dessus. Je crois qu'on va faire une petite pause.
Ouais.
vous êtes toujours à l'écoute de Radio Duo sur l'émission Papillon 89.5 FM. Nous sommes toujours en compagnie de Catherine, qui j'espère va faire la fin de l'émission.
Toujours malade, Catherine.
D'ailleurs, on te remercie d'être venue. Hein. Ouais. Vraiment merci. Et alors, on voulait revenir un peu sur les conditions de l'évasion. Et ce qui s'est passé, parce qu'avec le procès Ferrara, on nous dit « Regardez ces dangereux fous furieux qui attaquent la prison et qui veulent tuer des matons. » En attendant, pour l'évasion de tes fils, là, ce sont les...
Les surveillants qui ont tiré sur l'hélicoptère. Et 15 jours avant, il y avait eu une note qui avait été envoyée par Marie-Lise Le Branchu, puisqu'elle était ministre de la Justice à l'époque, qui stipulait très clairement... En cas de survol d'un établissement pénitentiaire par un hélicoptère, il est formellement interdit de tirer sur l'appareil. Il faut savoir que le jour de cette tentative d'évasion, la pilote, puisqu'elle était prise en otage, d'abord qui a été magnifique au procès, a prévenu Villacoublay, puisqu'il passe au-dessus du truc militaire. Villacoublay a prévenu la prison. Et quand ils sont arrivés au-dessus de la prison, il n'y avait personne dans les cours de promenade. Donc moi là aussi, je me pose des questions. Ils sont prévenus, il y a une évasion qui se prépare, il y a un hélicoptère qui arrive, et on fait sortir les 350 ou je ne sais combien de prisonniers dans les cours de promenade.
Mmh. Oui, c'est du calcul.
Quelle volonté il y a derrière ça? On est en droit de s'interroger. Mmh. Et les deux types qui sont venus, les deux seuls, qui étaient incarcérés, qui ont été témoins. Enfin, il y en a eu plein de témoins. Les deux seuls qui ont eu ce courage-là, il y en a un qui est en HP. Ils l'ont rendu complètement fou. Ah, d'accord. Ils lui ont fait subir. Mais... Et le deuxième, il sortira jamais. Voilà, on en est là aujourd'hui. Tu ne peux même plus dire la vérité. Tu ne peux pas venir dire à un procès la réalité de ce que tu as vu. Et la pilote, on lui a fait une telle pression parce qu'elle ne disait que la vérité. C'est insupportable. C'est-à-dire que, mais elle disait, je ne vais pas vous dire que c'est eux qui ont tiré les premiers. Je pilote un appareil, et j'entends dans l'habitacle les gars qui m'ont pris en otage, qui disent, merde les cons, ils nous tirent dessus. Je ne peux pas vous livrer autre chose que ce que j'ai entendu. Et ben, cette femme, un jour j'ai lu un article, elle m'a bouleversé. Elle rêvait, elle, parce que ce qui l'intéresse, c'est le pilotage. Elle rêvait de rentrer dans l'armée et d'être l'équivalent des pilotes hommes. Et bien, à la suite de cette histoire, ils lui ont dit qu'elle était fragile psychologiquement. Et pour ça, elle ne pouvait pas faire le métier. Alors qu'elle elle espérait qu'elle avait été brillante dans cette tentative d'évasion. Elle a été brillante.
Gérer un hélicoptère au-dessus d'une prison qui se fait tirer dessus.
Oui, et puis le maintenir comme elle l'a fait au-dessus des filets anti-évasion, il faut savoir, c'est extrêmement compliqué. Il y a des pilotes qui ont expliqué. C'était vraiment... Elle était que là-dedans. Elle était pas dans... elle disait une vérité. Elle avait compris que c'était un gars qui allait chercher un autre gars. Et puis, point barre. Eh ben non, ils l'ont bousillée parce qu'elle n'a fait que dire la vérité. Et qu'est-ce qui s'est passé au procès? Ce qui a fait qu'au procès, ils étaient partie civile, bien évidemment. Mais donc, l'avocat de la partie civile, son avocat, s'est mis à plaider quand Cyril a parlé 4 heures. Et à parler des conditions de détention, l'avocat de la partie civile a basculé, le procès il a basculé, c'est-à-dire qu'il a fait une plaidoirie sur les conditions de détention. C'était incroyable. C'est-à-dire que les jurés, moi je les ai retournés, cette partie civile, parce que les matons laissent tomber, ils ont fait que mentir. Mon fils Christophe les a laminés, mais comme ça un mec posé, il leur a dit d'abord il leur a dit d'une histoire d'homme, parce que ça s'était super bien passé avec eux. J'ai une cassette à la maison où juste après la réédition de Christophe, c'est-à-dire les mecs qui viennent de passer 20 heures avec lui, normalement des victimes, faut le tuer, etc. Et ben non, là ils l'appellent, ils disent Christophe, non Christophe, ils ont été voir la police pour pas qu'on lui tire dessus, et ces mêmes mecs, 6 ans après, ils disent l'exact contraire de ce que j'ai sur la cassette. C'est fou, quoi, on en est là. Et dans le procès Ferrara, pour revenir faire un parallèle au procès Ferrara, là, ils ont tiré sur l'hélicoptère, ça leur a pas posé de problème. L'hélicoptère a riposté sur le Mirador. Qu'est-ce qui s'est passé? pour pas que ça apparaisse dans... Parce qu'ils ont voulu faire croire que l'hélicoptère est venu pour tuer, comme s'ils étaient cons, les mecs. Ils viennent sauver un mec et ils viennent tuer en même temps. Tiens, on fait un petit course, vite fait. D'accord. Et pour justifier le fait qu'ils voulaient tuer, ils ont rebouché les trous faits par les balles. Parce qu'on voyait très clairement qu'elles n'étaient pas centralisées sur la fenêtre du Mirador, que c'était vraiment sur la pierre. Là, ils te l'ont replâtré, refait à neuf. En deux jours, c'était réglé. Pour repeindre une cellule, des fois, il faut 20 ans. Mais alors là, pour ce genre de d'arguments, pour avancer des arguments, ça se passe en moins de 48 heures. Et c'est comme ça qu'on fabrique du potentiel dangereux, qu'on te diabolise une histoire, et que en te montrant des escortes dans les petits films là que j'ai mis sur internet, t'as vu les escortes, comment ils arrivent, ils étaient encore plus hardcore au procès de Méphis que à Paris, quoi. À Paris, ils ont fait avec Antonio Ferrara. T'étais fouillé et tout ça, mais c'était moins abrupt.
Mais alors, du coup, pour revenir après cette tentative d'évasion, en fait, comment ça s'est passé pour tes fils en prison? Ça a dû être pire. Et puis, pour en tant que proche de détenu, comment ça s'est passé?
Alors, pour les proches. Allô?
Oui, oui. Oui.
Alors,
regardez-le.
Pour mes fils, ça a été dur. Notamment pour le plus jeune, le plus grand.
Celui qui est venu sauver son frère, en fait.
Pour Cyril, celui qui est venu avec l'hélicoptère. Et avant, le concept présomption d'innocence, il n'existe pas. Hein. Ils lui ont fait payer tous les soirs, les matons, il venait lui allumer la lumière en pleine nuit, mettre des coups dans la porte, l'empêcher de dormir. C'était tous les jours, tu vas crever, tu ne sortiras jamais vivant de prison, mais sans arrêt, pendant des années. Ils l'ont collé à l'isolement pendant 5 ans, et là ils ont commencé à mettre des pratiques... De psychologique en place, qui n'ont d'autre but que de bousiller les personnes, quoi. Voilà, ils se sont acharnés sur le plus fragile de la fratrie, c'est-à-dire Cyril, parce qu'il avait un espoir quand même, lui, de sortie. Son frère, il savait qu'il avait 40 ans de prison à faire. Hein, d'accord, il avait une date de libération à l'époque 2038. Donc, ils se sont acharnés sur Cyril, qui me ressemble beaucoup, qui est vachement réactif, qui supporte pas les injustices, etc. Et ils lui ont fait payer le tarif fort. Ils lui ont cassé les côtes. Ils l'ont massacré je ne sais combien de fois, mais à plusieurs, toujours, ils viennent à 15. Ils lui ont cassé la jambe deux fois, ils l'ont empoisonné deux fois. Hein, tu te retrouves, tu bois ta bouteille d'eau qui est fermée, tu bois et tu te retrouves dans le coma. Il y a quelque chose là, il y a des évidences qu'on peut pas nier. Comme ça, et moi je devais vivre avec ça. J'arrivais au parloir, ce que j'expliquais hier lors du débat, pour pas lui qui pète les plombs de l'autre côté, je lui faisais péter les plombs dans le parloir, mais ce qui faisait que j'emmagasinais une charge émotionnelle, au lieu de me faire un bon parloir, je repartais avec une telle charge émotionnelle que physiquement ça se ressentait. Je me faisais transfuser tous les deux jours, j'avais plus de plaquettes sanguines, enfin un truc. Je sortais de la santé, j'allais à l'hôpital Cochin qui est juste à 100 mètres. Pour me faire transfuser. Voilà un exemple de l'incidence des faits aussi horribles.
Et quand on parlait de liens familiaux, toi, tes deux fils, ils étaient bien évidemment hyper loin l'un de l'autre. Et quand tu allais au parloir, c'était hyper, hyper dur pour toi, quoi. Tu as fait tous les parloirs de France, limite, quoi.
Oui, mais bon, alors ça, c'est... encore une fois, ce tourisme carcéral, de plus en plus de familles le vivent, parce que ils ont réussi une chose incroyable, c'est que t'as plein d'articles de loi qui se terminent toujours, qui laissent une porte de sortie en disant sauf au cas où ça remettrait la sécurité interne en jeu. Et donc, on accuse de tout et de n'importe quoi les gars, au nom de la sécurité, pour pouvoir valider des mesures exceptionnelles. Donc, bien évidemment, j'allais au parloir. Mais mon fils cadet, il n'était pas en prison avant 2001. Avant qu'il fasse cette tentative d'évasion, j'allais voir que Christophe, qui était à Fresnes. C'est épouvantable. En plein mois de juillet, tu rentres dans cette prison. T'as l'impression de rentrer dans un souterrain de la mort. T'as oublié que c'est l'été à la fin du parloir. T'as des cabines, mais noires, vraiment noires, avec une espèce de petite ampoule, des rats qui cavalent, ça pue les rats morts. C'est immonde. Les enfants, non, je veux pas y aller. Un truc incroyable. Qui ne veut pas s'extraire d'un endroit tel? Et peu importe ce qu'a fait la personne, hein. C'est un réflexe complètement humain. Donc ensuite, quand ils ont incarcéré Cyril, oui, bien évidemment, c'était trop simple de me les mettre rapprochés. Donc ils me les mettaient au nom de la sécurité, voilà. Ils me les changeaient sans arrêt de prison et de plus en plus loin, Strasbourg, frontière allemande, et Lannemezan, 10 km de la frontière espagnole. Et toi, t'es au milieu en tant que proche. Et tu dois gérer tout ça. T'as pas de thunes, t'es fatigué, t'as pas de sang, t'as même pas plus de sang puisque t'as pas de plaquettes. Et tu dois faire avec tout ça. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Ou j'en canne. De toute façon, si ça me tue pas, hein, Nietzsche le disait bien, ça me rendra plus fort. J'ai dit, si je meurs pas de ça, je les lâche plus. J'en suis pas morte, j'ai guéri par ma seule volonté. Et je me suis dit, je laisse pas passer. Et c'est pour ça le but de cette association, j'ai monté cette association, c'est pour que aider à une prise de conscience de toutes ces personnes concernées comme moi. Oui, c'est possible, on peut faire des choses. Ils ont arrêté de torturer Cyril quand je suis allé sur le plan du droit, et pourtant j'étais réfractaire, hein, parce que moi, la victimologie, c'est pas du tout mon truc. Mais j'ai compris que dans mon urgence, la seule solution, c'était d'amener ça à un plan supérieur, à une instance. Si elle veut continuer à manger sur le dos de la bête, l'instance, il faut qu'elle, à un moment, elle prenne une position, tu vois. Comme la Cour européenne des droits de l'homme, tout ça, tous ces concepts humanitaires, etc. Puisqu'ils existent, il y a un moment, ils sont obligés de, pour se pérenniser et continuer à, hein, d'accord, à exister. Ils sont obligés de rendre des décisions, de vraies décisions. Et donc, par contre, les gens, ils n'y vont pas parce que c'est épuisant. Il faut monter d'abord un mémoire pour aller devant. Il faut avoir, encore une fois, épuisé tous les recours nationaux. Et ensuite, tu envoies un dossier. Le dossier te revient genre un an après, où on te dit s'il est valide ou pas valide. Il est valide, la France rend des conclusions. Des conclusions complètement mensongères, je les ai vues, mais tu vois ce que je veux dire. Même si ça, au fond du fond, ça sert pas à grand chose concrètement, puisque ça prend des années, donc les personnes ont le temps de mourir 100 fois, ça laisse une trace de l'incompétence de tous ces gens-là, de la vacuité du système pénitentiaire. Et quand des jurisprudences se font, ça fait avancer la machine quand même. Ça fait un espèce de garde-fou. Alors après, je termine. Ouais. J'ai conscience aussi qu'en dehors, ça valide aussi le fait qu'en dehors des recours légaux, les gens qui vont pas avoir accès à ça, au légal, quand ils vont être victimes d'un traitement dégueulasse, ou leur famille, si elles envoient une simple lettre. Ça sera pas valide. On va dire, il faut faire un recours légal. Et ce que je viens d'expliquer, qui est extrêmement épuisant. Hein, parce que épuiser les recours nationaux, ça prend 3 ans déjà, minimum. Minimum.
Alors, on va devoir conclure de manière un peu abrupte, donc, à cause du temps, visiblement, du temps. Et ce qui serait bien pour conclure, c'est quand même de signaler que là, on a parlé de prise d'évasion, etc., pour conclure, c'est que les évasions en France sont condamnées depuis 2004, alors qu'on nous fait croire que c'est des dangereux qui s'évadent, etc., alors que des pays comme la Belgique, ce n'est pas du tout condamnable, et Et voilà, on se prend pas des
Et pourtant,
peines.
C'est pas un modèle, hein, le modèle carcéral belge. Mais quand même, l'évasion...
Elle est considérée comme un droit et reconnue en tant que telle, quoi.
C'est humain.
C'est comme on enferme un animal, et ben voilà, l'envie, c'est de s'évader et...
Mais nos animaux, voilà. En France, ils sont bien mieux traités. Ils ont 30 millions d'amis, déjà. ce qui est pas peu, hein. Tu téléphones à la SPA pour un animal qu'on maintient dans une cage trop petite ou qu'on sort pas, et ben en moins d'une heure le problème il est réglé, hein. Alors que pour un être humain ça prend des années. On en est là.
Pour conclure, on va peut-être rappeler ton blog et ton livre
et donner les coordonnées de l'ARPI surtout.
Voilà. Oui, voilà. Alors www.arpi.net, ça c'est pour Mais de toute façon, le plus simple, vous allez sur Internet, vous tapez Fraternité à Perpète, vous avez tous mes blogs, tous mes sites, et parce que le site de l'ARPI, il est en
construction
comme je ne suis pas très doué, moi, ça prend un peu de temps. Mais il y a juste à taper Fraternité à Perpète, et là, on a accès à tout ce qui est écrit. Pour ceux que ça intéresse, dans le procès Ferrara, j'ai retranscrit toute la plaidoirie de Bernard Ripert, qui était exceptionnelle encore une fois. Et je le redis, si on avait plus d'avocats comme ça, aussi courageux, ça se passerait peut-être parfois un peu mieux.
Et ben on te réinvitera en tout cas pour parler d'autres sujets.
L'été
ouais. Le printemps, ouais, l'été, quand il fera pas très
On aurait aimé aborder plein d'autres choses, mais bon, c'est con, on n'a pas le temps. Hein.
Bah, la prochaine fois.
ça fera l'occasion.
La marche pour la prochaine fois.
Ça fera l'occasion. Bon, Elsa, je crois que tu voulais dire un truc pour finir.
Eh bien, nous avons un agenda, comme à la fin de chaque émission. Donc, je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter, mais le 16 janvier, il y aura un concert de punks et de rappeurs contre les prisons. Donc, ce sera à l'entrepôt Bellevue, rue de les Galeries. Donc, voilà, le 16, il y aura... Botox in Veins, Toujours Rien et Ennemi d'État, qui sont trois groupes de punk. Et il y aura aussi Les Rouilleurs et Marie Red, qui sont deux groupes de rap. Voilà. Et donc, le but, c'est de faire une soirée contre les prisons et que les bénéfices, ils aillent à des gens qui sont en prison et qui ont besoin de thunes. Voilà, ça, c'est le 16. Et sinon, alors, je ne sais plus exactement les dates, mais en gros, du 15 au 25 janvier... Le comité de soutien aux inculpés de Tarnac organise une semaine de soutien. Et voilà, il y aura plusieurs concerts, je ne sais plus exactement quand. Le 24, il y aura une soirée numéro 0 où il y aura des projections de films. Je ne peux pas vous en dire plus parce que ce n'est pas trop calé pour le moment. Et ce sera plus particulièrement en soutien à Calimero, qui est une caisse de soutien à pas mal d'inculpés qui sont en prison, et pas uniquement les gens de Tarnac. Et le 26 janvier, à l'Assommoir, il y aura un concert de punk et d'autres trucs dans le style. Donc à l'Assommoir, c'est rue de la Richelandière. Et là, ce concert-là, il sera en soutien aux Grecs insurgés et aux gens de Tarnac qui se sont fait arrêter. Voilà, je crois que c'est tout pour l'agenda de ce que moi j'ai en tête.
Et puis si les gens veulent, qui nous écoutent veulent plus d'infos, ils peuvent aussi ouvrir l'œil dans les rues. On a l'habitude de coller des affiches dans la rue. C'est pas une pratique courante,
c'est ça,
mais
voilà.
Ça permet d'avoir les infos aussi.
Et surtout, voilà, il est très important de témoigner, donc envoyez-nous vos témoignages. Donc à l'émission Papillon, à Radio Dio, 14 rue de Roubaix, 42100 Saint-Étienne.
Voilà, donc on se retrouve le premier dimanche de chaque mois à 17h30.
Et ben une bise à Nabil aussi,
à Villard, à Steph.
Ouais.
Peut-être Victoria si elle écoute.
Peut-être Victoria si elle nous écoute, mais on en doute. Et ben bonne soirée
et courage
à
tous. Courage à tous, surtout.
Merci à Catherine.
Ouais, merci
d'être venue.
Merci à
Catherine.
Vous de m'avoir invité. Bonsoir à toutes et à tous.
Et bon courage à l'intérieur.
Cellule au premier étage. Je crée un central pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain,
gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Boxons commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. Ça va saigner. Pour les mains qui disent sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.